Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Je me souviens de ce moment à l'adolescence où j'ai découvert, peu à peu et à mon grand étonnement, que toutes les familles n'étaient pas comme la mienne, que mes camarades n'avaient pas tous la même façon de vivre, d'être ensemble, de parler à leurs parents, de manger, que ce que je tenais comme normal n'était pas forcément la norme. Par exemple, je me rappelle avoir observé avec curiosité que certains de mes amis partageaient régulièrement leur repas avec leurs parents et que pour eux, c'était un moment important, se réunir autour d'un dîner cuisiné, savoureux et discuter de leur journée, parents et enfants ensemble. Je vivais alors dans une bulle hermétique où on ne faisait pas ça, comme d'autres vivent dans leur cité, leur pavillon, leur campagne. Toutes ces façons d'être différentes que je découvrais, tous ces détails accumulés, pratiques sociales codées, formaient évidemment ce qu'on appelle une culture de classe qui permet peu à peu de faire la distinction et de créer des sentiments d'appartenance. C'est à cette prise de conscience qu'on s'intéresse aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, au moment éphémère où on sort de la bulle et où on regarde dehors. Celle que l'on explore tout de suite est un peu particulière, plus hermétique sans doute que les autres, puisque c'est celle des beaux quartiers, des enfants de familles aisées, voire très aisées. Trois regards d'adolescents tout de suite donc, en train de découvrir l'argent de leurs parents, la classe, la différence. Bertille, Victor et un ex-ado se racontent au micro d'Alice Babin.
Alors, je m'appelle Bertie, je vais avoir 19 ans et j'habite à Levallois-Perret depuis 19 ans, bientôt. Donc, je suis en école de commerce, post-bac et je rentre en deuxième année, donc là, cette année. Donc, j'ai grandi dans une famille noble. Donc, mes grands-parents avaient des châteaux, enfin, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. Et du coup, oui, ma chevalière, c'est donc les filles, c'est au petit doigt, les hommes à l'annulaire. Donc là, il y a l'aume du chevalier. Là, c'est le blason. Et en fait, là, c'est des cendres. Enfin, c'est des flammes qui renaissent de leurs cendres. Voilà. Parce que la devise de ma famille, c'est « Ut ignis ad alta, comme le feu, je m'élève ». Et en fait, je m'étais posé la question, si ma grand-mère me l'avait pas offerte, je sais pas si je l'aurais demandé de la faire faire. Je trouve que ça va un peu péteux, pour être honnête. Et voilà, du coup, j'ai grandi dans une famille plutôt aisée, avec des parents qui gagnent bien leur vie. Donc mon papa, il travaille dans la finance à Londres. Dans l'immobilier, dans le real estate. Et ma maman, elle travaille pour une marque de prêt-à-porter pour hommes, dans la mode. Voilà. Donc on parle pas souvent d'argent avec mes parents, avec ma maman plus qu'avec mon papa, parce qu'elle est beaucoup plus transparente par rapport à ça. Donc je sais, pour le coup, que ma maman gagne entre 6 000 et 9 000 euros par mois, parce que ça, on en parle. Et mon papa, pour le coup, il en parle pas du tout. Et donc lui, on l'a appris contre son gré. Et il doit gagner 80 000 euros par mois. Un truc comme ça. Voilà. C'est beaucoup d'argent, 80 000 euros par mois. Mais en fait, c'est drôle parce que je le ressens pas du tout. Je ne ressens pas du tout ça, là, la richesse, en fait. Parce qu'en fait, et même en fait, au-delà de ça, ma personne n'est pas définie par ce que gagnent mes parents. J'ai pas du tout envie que les gens me voient comme quelqu'un qui ne parle que de ça et comme quelqu'un qui se définit par ça, en fait. Donc j'ai toujours été scolarisée dans un établissement privé catholique à Neuilly-sur-Seine. Et en classe de 5e, j'ai changé d'établissement et je suis rentrée à la Légion d'honneur, donc qui est un établissement public. Et donc en rentrant à la Légion, ça m'a un peu ouvert les yeux parce qu'il y a une vraie mixité sociale, autant au niveau des richesses des familles, si on peut dire ça comme ça, des religions, des origines. Et moi, bah en fait, j'ai grandi dans une bulle, en fait, à Neuilly, où tout le monde est plus ou moins catho, tout le monde gagne assez bien sa vie, ou a un certain mode de vie, un certain train de vie, en tout cas. Tout le monde est blanc. Et c'est vrai que, du coup, en rentrant à la Légion, j'ai dû m'adapter et ouvrir les yeux sur le fait que tout le monde n'habitait pas à Neuilly, que tout le monde n'avait pas... des Canada Goose, des appartements de 300 mètres carrés dans le 17e ou à Neuilly. J'ai juste vu la vraie vie, en fait. Et maintenant, j'ai beaucoup de mal avec la psychologie des gens à Neuilly, qui est on est à Neuilly, on ne sort pas de Neuilly, à part pour aller dans le 17e ou dans le 16e, grand maximum. C'est un peu l'excursion. Et en fait, en rentrant à la Légion, donc en 5e, en fait, on était toutes en uniforme toute la semaine. Et le vendredi, tout le monde se changeait pour prendre le RER et rentrer chacun chez soi. Et en fait, le vendredi, je voyais les gens donc sortir, on appelait ça en civil, donc en vêtements normaux, en fait. Et j'étais hyper perturbée. C'était devenu mes amis. Et en fait, quand je les voyais le vendredi, je me disais... on est hyper différentes, en fait. C'était pas tant le fait qu'elle s'habillait pas en marque, c'était plus le style de manière générale. Un style un peu beauf, un peu provincial, quoi. Genre un peu chelou, avec plein de couleurs et tout. J'avais jamais vu ça, en fait. Arrivaient les vacances de Noël, on parlait des vacances, qu'est-ce que tu fais ces vacances-là, etc. Et elle me disait qu'elle restait à Paris ou qu'elle était à la campagne voir leurs grands-parents, enfin, peu importe. Moi, ça me paraissait hyper bizarre de me dire qu'il y avait que tout le monde ne partait pas à la montagne ski, en fait. Enfin, c'est un truc. Pour moi, tout le monde partait. Enfin, à Noël, pour moi, tout le monde savait skier, tout le monde partait. Et en fait, pas du tout. Enfin, aujourd'hui, je le sais. Enfin, aujourd'hui, je trouve ça encore un peu bizarre. C'est débile, mais je trouve ça drôle. Je me dis, c'est dingue, enfin, qu'on fasse des choses toute notre vie et qu'il y ait des gens qui l'aient jamais fait. Comme prendre l'avion. Il y avait des filles, elles avaient jamais pris l'avion. J'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas été à la Légion, ça c'est certain. Ça m'a ouvert les yeux, enfin, ça a ouvert mon esprit. Je pense que j'aurais été confrontée à un moment ou à un autre à la différence, mais ça aurait été différent. Là, j'étais obligée de m'y adapter. J'étais en internat, 5 jours sur 7 avec elle, ça allait devenir mes amis. Enfin, maintenant, aujourd'hui, ces filles-là, enfin, je veux dire, peu importe... d'où elles viennent, combien leurs parents gagnent, ce qu'elles font de leurs vacances, je les adore. Pour moi, c'est devenu mes sœurs. On a vécu 6 jours sur 7 pendant 6 ans ensemble. Enfin, on s'en fiche complètement de tout ça. Mais aujourd'hui, je me considère encore comme snob. Parce qu'en fait, c'est triste, hein, mais c'est mes racines, en fait. Enfin, si aujourd'hui, j'arrêtais complètement d'être snob, j'arrête... Enfin, c'est comme si j'arrêtais de porter mon nom de famille, en fait, c'est un peu bizarre, mais voilà, mon éducation me colle à la peau, hein, si je peux dire ça comme ça, c'est sûr. Et on m'a appris à juger, on m'a appris à juger toute ma vie, à porter un regard critique sur plein de trucs qui, en soi, veulent rien dire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche si si cette personne elle dit on va à Ikea, ou si cette personne elle met des crocs et pas des espadrilles, en fait, et si ce garçon il met des t-shirts et pas des chemises ou des polos, enfin, c'est pas des croyances qui sont ancrées en moi, parce que je n'y crois pas, c'est des automatismes en fait. Et puis en plus de ça, c'est un truc, c'est un peu handicapant, parce qu'en fait, je me dis, si je rencontre quelqu'un, imaginons demain je rencontre un mec, enfin je rencontre un garçon, il est hyper sympa, hyper gentil, hyper drôle, il a tout pour lui. Mais le mec, on est hyper différents socialement, on n'a pas du tout été éduqués de la même manière, on n'est pas du tout du même milieu social, il s'habille pas du tout comme je rêverais que mon mec parfait s'habille. Bah, j'ai passé à côté, parce qu'en fait, si je le présente à mes parents, ça fonctionnera pas. Bah, par exemple, cet été, j'ai rencontré un garçon... canon, vraiment, mais hyper sympa, on s'entend hyper bien, je le vois pas dans mon monde, en fait. Enfin, il n'y a pas d'avenir. Ce serait beaucoup trop dur pour moi de casser quelque chose pour un mec, parce que vraiment, j'adore. Enfin, je suis déjà bien en marge, j'ai pas envie d'être rejetée par les miens, par ma famille, par mon entourage, par mes amis, par tous ceux qui m'ont toujours entourée, en fait. C'est compliqué. Il faut qu'on soit tous programmés. On sort pas du cadre, en fait. Voilà.
Je m'appelle Victor. J'ai 19 ans, je suis étudiant en droit, j'habite à Paris depuis 3 ans, avant j'étais à l'étranger, et puis voilà. Donc on était partis en vacances pour l'anniversaire d'une amie, en fait c'était tout un cadeau que ses parents lui avaient offert, c'était une semaine de vacances avec ses amis. Moi j'avais 17 ans, c'était dans le sud de la France, et en fait elle nous avait présenté les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne savait rien, et on est arrivé donc dans sa maison, on a passé une nuit là-bas. Elle nous a dit demain on va sur le bateau et on va rester le restant du séjour, donc de la semaine, sur ce bateau. Et on était à peu près, 7 je crois, 7 ou 8. C'était le port de Juan-les-Pins, c'est dans le sud. C'était un port au début de plein de petits bateaux de pêcheurs, et du coup on se dit bon, on va faire un petit tour en bateau et ça va être cool. Et on se dirige sur le ponton, ça avance et on quitte les petits bateaux. On arrive à cet endroit où il y a 3 grands bateaux, un peu de différentes tailles. Et en fait, on voit que c'est tout un équipage qui sort du dernier bateau pour nous accueillir. Donc on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était un petit yacht. Enfin, là, il paraissait vraiment gigantesque. Et c'était, voilà, une semaine dans un monde totalement différent, où tout nous était fait. On faisait pas nos lits, on avait le petit déjeuner servi. Enfin, c'était assez idyllique sur le moment, c'était incroyable. Et c'était un très beau cadeau. Je pense que ça a dû coûter extrêmement cher, parce que c'est déjà un yacht, il y a tout le ravitaillement, et tout nous était payé, les restaurants et tout. Et en fait, pour elle, tout paraissait normal. Enfin, elle nous dit, ouais, on va sortir les paddles, et on va sortir plein de trucs. Non, déjà, on se dit, des paddles dans un... Enfin, comment ça? Et en fait, ils ouvrent un coffre, et il y avait des centaines de trucs, des paddles, il y avait même cette planche motorisée avec un guidon. Enfin, c'était des trucs de malade. Nous, on s'exaltait devant ça, et pour elle, c'était tout à fait normal. Faut savoir qu'à Saint-Tropez, il y a le Sénéquier, qui est quand même le plus grand café de Saint-Tropez, et que se garer devant Sénéquier, c'est la place de folie. C'est la place qui doit coûter le plus cher, à la limite, de tout le port et tout. Déjà, rentrer dans le port, des gens nous prenaient en photo, parce que nous, on était à l'avant du bateau, donc on nous voyait. Déjà, en plus, sur le bateau est haut, donc voir des gens en bas de nous prendre en photo, là, sur le moment, je trouvais ça... Enfin, quand j'y ai repensé, c'était vraiment... J'étais mal à l'aise, parce que t'as l'impression que t'es supérieur aux autres. Ouais, j'ai pris conscience que c'était... Enfin, que nous tous, on nous avait mis dans ce monde particulier. On s'était dit, ah, eux, ils font partie de la classe plus haute. Donc c'est vrai que là, c'est le moment où je me suis dit, ah oui, on peut être... Enfin, on est considéré par les autres comme différents ou spéciaux ou des trucs comme ça, quoi. J'ai remarqué vraiment qu'on m'a collé l'étiquette de, ah, ils sont riches, eux. Et ouais, c'est bizarre, parce que tout de suite, ça crée une fausse... entre les gens, je trouve. Dès que les gens disent « Ah, il est riche », ça sous-entend déjà que « Non, on l'est pas », du coup, hop, il y a une fausse. En soi, j'appartiens pas non plus à ce monde-là, le monde des gros bateaux, entre guillemets. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une différence d'être fortuné et de ne pas avoir de yacht et d'être au stade où j'ai un yacht, etc. Quand je pars en vacances avec mes parents, c'est vrai qu'on se retrouve dans des hôtels qui sont quand même très très sympathiques. Ça peut être un peu le même genre de personnes qui s'y trouvent, mais il y a quand même une différence. Des hôtels de luxe, du style... j'avais fait un hôtel qui était 5 étoiles à l'île Maurice, donc c'est vraiment le même type de personne qui y est. Mais c'est un cadre différent. Y a que mon père qui travaille. Ma mère est mère au foyer, mais mon père, il dirige un fonds d'investissement, en gros. Et enfin, moi, je sais qu'il y a des moments, quand j'étais en seconde, je sais pas pourquoi, il y avait deux filles de ma classe qui m'avaient attribué l'étiquette de gros cato riche, mais qui me le disaient comme si c'était un reproche, en mode c'est pas bien. Et du coup, on va pas te parler. Tu vois, et moi j'étais complètement outré, j'étais là, mais moi je. Enfin, en plus, ces deux filles-là, je les trouvais franchement sympathiques, je me disais, mais je vais pas du tout rentrer dans leur jeu, enfin, c'est ridicule de coller cette étiquette et de faire, ouais, c'est comme un défaut, c'est comme un. Moi, en fait, je préfère juste ne pas en parler parce que j'ai pas envie qu'on me. Que quand on pense à moi, on pense à ça, en fait. J'ai envie qu'on pense à moi en tant que personne et pas, ah oui, ça c'est Victor, il a de l'argent.
Et t'as combien d'argent de poche par mois ?
J'ai combien d'argent de poche par mois ? Moi, j'ai 500 euros. 500 euros par mois, et c'est pile assez, en tout cas pour Paris qui est une ville chère, c'est-à-dire que je peux faire mes courses, je peux prendre quelques verres avec des potes, et moi j'aime pas demander plus, j'aime, quand je suis short, j'aime bien en fait me forcer à garder une limite, parce que je sais que mes parents peut-être qu'ils ont de l'argent, mais moi peut-être que j'en aurai pas, ou j'en aurai moins, et du coup il faut que je m'habitue à me dire non, on dépense pas trop, on se calme, et... Si je me restreins en argent, oui, c'est parce que j'aimerais, dans l'idéal du possible, la vie de rêve, en gros, ce serait de pouvoir devenir artiste, artiste contemporain, et voilà, gagner ma vie avec ma passion. Le fait, du coup, que je quitte, que j'arrête mes études de droit, après j'ai quand même une licence, donc j'arrête pas sans rien, mais pour de l'art, c'est vrai que c'est une grosse source de stress, et parfois de remise en question, de se dire, est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Moi, personnellement, je pense que c'est le bon, parce que je ne me vois pas être avocat toute ma vie. Donc, c'est vrai que je me dis, c'est une chance sur deux. Parce que dans l'art, quand on réussit dans l'art, très honnêtement, on gagne, je pense, très très bien sa vie. En tout cas, de nos jours. Moi, j'ai vu des œuvres qui se vendent, mais à des prix ahurissants. Et après, il y a l'autre idée de, je vais peut-être être noyé dans la masse. Peut-être que les gens vont pas reconnaître ce que je fais. Peut-être qu'ils vont pas aimer mes idées. Et du coup, peut-être que j'aurai pas beaucoup d'argent, du coup. Donc, autant que je fasse gaffe, moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie que ma réussite plus tard, ce soit la mienne. J'ai pas envie de me dire, ah bah non, ça va, moi j'ai l'argent de mes parents, au pire, vas-y, je travaille pas, mais je suis tranquille. Je pense que l'argent, c'est quand même important, parce que, en fait, ça permet de se soucier de moins de choses. Mais en gros, ouais, je pense que quand même, l'argent, il faut en avoir, et il faut essayer d'en avoir le plus possible, même si ça peut paraître par moments un peu malsain de se dire, je travaille pour l'argent, mais, à un moment, la société est construite comme ça, et tu peux pas juste changer d'un coup. Et en ce moment, je fais de la peinture. Uniquement de la peinture, mais j'aimerais faire beaucoup de choses différentes. J'aimerais faire de la sculpture, j'aimerais faire des projections, j'aimerais faire plein de choses en fait. J'ai pas envie de m'arrêter moi qu'à la peinture. Enfin moi, mes plus grands modèles de plus tard, si je deviens artiste, ce serait de faire des expositions comme Louise Bourgeois a pu faire, comme Mona Hatoum peut faire, c'est-à-dire dans des grands centres, style Pompidou, style Tate Moderne, et là on peut vraiment plonger le spectateur dans quelque chose. J'ai envie de faire des trucs spectaculaires. Moi, j'ai pas envie de... C'est comme ça, en fait. Moi, j'ai la même philosophie de vie pour mon travail plus tard. C'est l'art. J'ai pas envie de faire de l'artiste dans mon coin. Je vais le plus haut possible et je taffe le plus qu'il faut et comme ça, je pourrais partager encore plus. Ça rejoint, en fait, beaucoup le domaine de l'argent et on se dit toujours, est-ce que je fais de l'art pour moi, donc finir comme Van Gogh et peut-être crever sans le sou ? Ou se dire, comme Jeff Koons, moi je veux de la thune, et du coup on termine avec des petites sculptures qui se vendent 60 millions.
Je m'appelle Noël, je suis aujourd'hui architecte. Les choses dont je vais vous parler se sont déroulées à une époque où j'avais entre 13 et 17 ans, ado quoi. Mon père, c'est un grand humaniste, un homme de gauche qui, c'est pas incompatible, a très bien réussi. Quand je dis réussi, c'est qu'il a créé une entreprise qui est présente dans près de 80 pays dans le monde et doit avoir un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Cette entreprise a grandi en même temps que moi. Il y avait cette idée que nous étions riches et aussi l'idée que je ne connaîtrais pas la précarité. De toute façon, j'étais protégé par cette espèce d'épée de Damoclès dorée. On habitait dans un quartier dans l'Est parisien, très très populaire, au regard de notre famille qui était quand même beaucoup plus bourgeoise. Et on vivait dans une maison qui faisait près de 250 mètres carrés. C'est une rue. À droite, quand on monte, il y a des maisons. À gauche, il y a une cité. Donc, cette espèce de face-à-face avec des enfants qui se retrouvaient tous ensemble quand même au collège, là où j'étais. Mes amis, c'était des gens qui venaient de milieux assez différents, beaucoup moins à l'aise financièrement. Et on jouait beaucoup au basket, on était à la maison et on regardait des clips, on écoutait de la musique, on mixait. C'était la grande époque d'MTV, c'était... les platines vinyles, quelques sorties nocturnes pour aller faire des fresques affreuses dans les rues. Et ça marchait super bien. Il était fréquent que j'ai certains copains le vendredi soir qui passent m'emprunter une paire de chaussures pour sortir ou qui passent du temps à la maison parce que c'était sympa. Et puis on avait de la place, on pouvait faire des trucs. Donc, j'avais plus de moyens qu'eux et je le partageais. Mais il y a une tradition qui s'est développée dans la famille qui est fort sympathique, qui est qu'en décembre, pour Noël, c'est quand même vachement sympa d'aller au soleil. Donc on se retrouve très régulièrement à l'île Maurice, à Nocibé, ensuite la Martinique, la Namibie. Bon. Donc évidemment, je rentre moi début janvier, généralement en ayant d'ailleurs raté quelques jours avant et raté quelques jours après le collège, ce qui la fout mal. Et en plus, je me pointe ultra bronzé en plein hiver grisâtre parisien. Donc effectivement, je ne peux pas cacher que j'étais au soleil, mais moi j'évoque plutôt le ski pour rendre ça plus acceptable. Moi, je suis gêné, j'ai toujours été gêné. On s'est installé dans ce quartier parce que j'ai des parents qui ont de l'argent, qui aiment bien vivre, etc., mais qui ont aussi des idées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'entre-soi, qu'on peut être parmi d'autres et qu'il n'y a pas de problème. Ma mère, par exemple, est dans une quête permanente de gain de lumière dans la maison, donc on ouvre. C'était ne pas mettre de rideaux, transformer la porte de la rue qui était pleine en porte vitrée, cette quête voilà, de clarté, de bien-être intérieur, mais qui du coup, quand on dîne le soir en famille et que tout le quartier nous voit dîner, moi ça me gêne. Donc, le lundi, très régulièrement, nous allons, mon père et moi, remplir un caddie donc au centre commercial, un caddie d'une valeur, alors à l'époque c'est en francs, mais de plusieurs milliers de francs. Nous y allons dans une berline Mercedes noire, vitre teintée. Et c'est une époque où la G7 a son service pour les hommes d'affaires ou les gens entre guillemets importants, ça s'appelle le club affaires. Et on fait notre entrée dans le quartier, donc à droite les maisons, à gauche la cité. On se garde dans la maison et on sort pour plusieurs milliers de francs de course. Et on rentre tout ça à la maison sous les yeux des gens du quartier. Et effectivement, arriver, débarquer en taxi... berline noire, vite teintée, avec plusieurs milliers de francs de course, dans un quartier voilà, qui est pauvre, eh bien, ça me gêne, ouais. Je me dépêchais de rentrer les courses, de fermer la porte, je retirais les rideaux et ensuite on pouvait préparer lui et moi à dîner. Et là, pour moi, le bon moment commençait. Moi, dans ma famille, j'étais un peu l'emmerdeur, quoi. C'est-à-dire, ah, mais qu'est-ce qui a encore fermé les rideaux? Ah, mais on s'en fout, mais non, c'est pas un ghetto, faut pas exagérer, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Donc j'étais un peu seul, quoi, dans ce combat. Et ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai commencé mes études d'archi, c'est que j'ai rencontré des sociologues qui m'ont expliqué que, ben voilà, dans une maison, il y a des seuils, quoi. Ben aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de maisons. J'essaye d'y intégrer ces questions du public à l'intime, quoi. Mais l'intime, ça se protège, quoi.
C'était dans la bulle des beaux quartiers, un reportage d'Alice Babin réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en 2020. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Merci pour cet épisode à Victor, à Bertille, à Noël, ainsi qu'à Julie Gavras qui a réalisé un documentaire intitulé « Les bonnes conditions sur les jeunes des beaux quartiers ».